Lundi 23 décembre, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, le journal Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Oubliez les grèves et les intempéries, demain c'est Noël. Pas facile pour ceux qui n'ont plus d'électricité en Corse et dans le sud-ouest après le passage de la tempête Fabien ce week-end, on va le voir. Pas facile non plus de rejoindre sa famille pour les fêtes. La grève continue à la SNCF et à la RATP, on va aussi en parler. Mais pour ouvrir ce journal, nous tâterons volailles et fruits de mer, foie gras et fromages affinés. C'est à Rungis que ça se passe ce matin et nous y serons dans un instant. Dans ce journal aussi, 2019, année de la contestation partout dans le monde. Nous reviendrons sur ces manifestations qui ont marqué l'année, à commencer par Hong Kong. Notre-Dame de Paris, les gros travaux vont pouvoir commencer. Début du démontage de l'échafaudage qui a brûlé avec la cathédrale. Et puis on connaît les dictionnaires amoureux. Voici un dictionnaire enjoué des cultures africaines. De quoi s'enjailler à 8h20 avec votre invité Ali Badou.
L'écrivain franco-congolais Alain Mabankou sera l'invité du grand entretien de la matinale. Chers auditeurs, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert ou l'application France Inter.
Travailler ou prendre soin de son nouveau-né et de sa compagne qui vient d'accoucher. Combien sont les sportifs à renoncer à une compétition pour prendre leur congé paternité? On en a trouvé un, c'est le nouveau patron du biathlon mondial. Mais l'exception ne fait pas la règle.
France Inter.
Pour commencer, comme promis, direction Rungis, plus grand marché du monde pour les produits frais vendus en gros. On y réalise pas loin de 9,5 milliards de chiffres d'affaires chaque année, dont une bonne partie maintenant, avant Noël, pour nourrir 12 millions de franciliens. La dinde que vous mangerez ce soir, les huîtres ou les Saint-Jacques seront passés par son million de mètres carrés d'entrepôt arpenté par Thibault Lefebvre. Ce matin, bonjour Thibault.
Bonjour Florence.
À 7h, Thibault, on vous a entendu au pavillon des poissons et fruits de mer. Vous êtes passé à la volaille, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on mange demain soir, Thibault?
Eh bien écoutez, on mange sans surprise des chapons, des canards du sud-ouest, mais la star des volailles, eh bien c'est la dinde de Bresse, un collier de plumes noires, des pattes bleutées et surtout une chair qui n'a pas d'égal.
Ça c'est le summum, c'est ce qu'il y a de mieux. Elle n'est pas travaillée industriellement, elle est travaillée à la main. Vous voyez cette finesse de peau? Si on met la main dessus, on va la détruire. C'est comme quand on reçoit un coup de poing. Après, on a un bleu. Elle, ça sera pareil.
Il ne faut donc pas violenter la dinde, mais tout de même la cuire 3 heures à 180 degrés, selon les conseils du volailler Étienne Couturier. Autre figure du marché, Gino Catena. Plusieurs décennies à Rungis et un constat, les clients dépensent plus pour mieux manger.
On va vraiment sur les produits, on va dire, de terroir, de bien-être animal. On va vraiment dans ce modèle-là. Et là, on est tout à fait disposé à ça et ça se passe très très bien.
Ça se passe très bien, ou en tout cas mieux que ces dernières semaines, parce que Rungis a craint le pire, grève oblige. Stéphane Layani est le président du marché.
On a eu très très peur parce que évidemment la restauration souffrait. Il y a des secteurs qui ont été spécifiquement touchés, la gastronomie, les gens qui travaillent avec la restauration collective. Là, ça va beaucoup mieux depuis jeudi, vendredi, samedi, lundi. Demain, on finit tout.
Il n'y a ce matin pratiquement plus de stock car les grossistes ont moins commandé cette année. Avec la crise des gilets jaunes, le marché a perdu l'année dernière 7 à 10% d'activité. Ce sera sans doute plus autour de 5% cette année.
Thibault Lefebvre en direct du marché de Rungis. On espère que vous en avez un peu profité, Thibault, avant le réveillon de demain soir. Ambiance particulière, vous l'avez dit, pour un Noël de grève en tout cas. Il est bon de savoir faire trêve, a dit Emmanuel Macron depuis la Côte d'Ivoire ce week-end. Sans être entendu par les syndicats de la SNCF et de la RATP qui continuent le mouvement contre la réforme des retraites. Après 2 semaines et demie de conflit, on a donc voulu savoir comment ces acteurs étaient perçus par les Français. Sondage Odoxa pour France Inter, c'est notre baromètre mensuel, qui nous apprend que ni le président ni son premier ministre ne dévissent, ils stagnent autour de 35% d'opinion favorable. Et les syndicats, dans tout ça, sont-ils soutenus? La CGT sur une ligne, la CFDT sur une autre. Les avis sont très tranché, explique le président de Doxa, Gaël Slimane.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un traitement par l'opinion qui est très différent à la fois de la CGT et de son leader et de la CFDT et de son leader. On va dire que la CFDT bénéficie d'une popularité tout à fait correcte. 51% des Français disent avoir une bonne opinion de ce syndicat. Même chose pour son secrétaire général Laurent Berger, à peine un peu moins populaire, 45% de bonnes opinions. C'est pas mal parce qu'il y a une sorte de défiance à l'égard des syndicats dans le pays. Donc on est à des niveaux qui sont tout à fait appréciables pour la CFDT et pour Laurent Berger. Et c'est tout le contraire pour la CGT et pour Philippe Martinez. On a une impopularité qui est assez marquée pour la CGT, 56% de mauvaises opinions, et qui est encore plus marquée pour Philippe Martinez, puisque quasiment les deux tiers des Français, 64% d'entre eux, disent avoir une mauvaise opinion de Philippe Martinez. Ce qui est cocasse d'ailleurs, c'est que ça le situe à peu près au niveau de popularité du couple exécutif, du président et du Premier ministre.
Philippe Martinez qui ne lâche rien. La CGT avec Sud, FO et CFDT Cheminots maintiennent leur appel à la grève 19e jour. 40% des TGV et des TER assurés, seulement 20% des Transiliens. Attention sur ces lignes franciliennes, le trafic va s'arrêter progressivement à partir de 18h demain avant le réveillon pour ne reprendre que mercredi dans l'après-midi, voire jeudi matin sur certains tronçons. Comment font les grévistes pour tenir aussi longtemps? Certains puisent dans des caisses de grève, parfois bien remplies, Fabien Cazot.
Le syndicat le plus généreux avec ses militants, c'est la CFDT. La centrale des dommages, ses grévistes à hauteur de 7,30 euros de l'heure non travaillée à compter du deuxième jour de mobilisation. L'organisation réformiste, contrairement à d'autres comme l'UNSA, se veut transparente sur le montant total de sa caisse de grève. 126 millions d'euros, un capital accumulé au cours des dernières décennies, peu utilisé finalement puisque la CFDT appelle moins souvent que d'autres centrales à des arrêts de travail. Du côté de Force Ouvrière, en revanche, l'indemnisation est moins généreuse, 12 euros par jour après 3 jours de carence. Cela a pu monter à 50 voire 100 euros par jour localement en 2018 dans certaines fédérations Sudrail, alors qu'à la CGT, il n'y a pas de disposition particulière prévue, mais des appels à la solidarité à chaque fois qu'un mouvement social est lancé via des collectes dans les manifestations ou des cagnottes sur Internet.
Cagnottes qu'une quarantaine d'écrivains, de comédiens et d'universitaires appellent à garder. Les cheminots défendent un de nos biens communs qui est la retraite, disent Annie Ernaux, Jean-Marie Bigard ou bien Corinne Massiereau. Enfin voilà qui n'avait pas encore été fait dans ce conflit des retraites, l'arrêt d'une raffinerie, celle de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône, enclenchée par la CGT hier. Ça va prendre quelques jours, prévient le syndicat, selon lequel d'autres sites à Grandpuy, La Mède et Fezin pourraient décider d'embrayer aujourd'hui. Jusque-là, seul des blocages avaient affecté les installations qui produisent du carburant en France. L'aéroport d'Ajaccio fermé toute la journée. Une partie de la piste est encore pleine d'eau après le passage de la tempête Fabien. Les départs et les arrivées se feront par Bastia, d'où partiront une cinquantaine de vols supplémentaires. Avec le sud-ouest, c'est donc la Corse qui a été particulièrement touchée par le vent et la pluie ce week-end. 3000 foyers n'ont toujours pas retrouvé l'électricité. EDF Corse, par la voix de son directeur Patrick Bressot, parle d'une situation inédite.
La crise que nous vivons actuellement est historique pour la Corse. Nous n'avons jamais eu de vent d'une telle violence. 170 km/h dans les rues de Bastia, 154 km/h à Ajaccio, plus de 200 km/h dans le Cap Corse, c'est exceptionnel. Les vents d'une extrême violence ont impacté le réseau. D'abord avec des arbres qui sont tombés sur le réseau, qui ont été déracinés par la force des vents. Ensuite, le matériel qui a été mis à rude épreuve, quelques poteaux tombés, des matériels tordus. Le combat que mènent les agents d'EDF et les prestataires, de faire la réalimentation pratiquement pied à pied.
Voilà, et si l'on ajoute le sud-ouest à la Corse, il restait plus de 21 000 foyers sans courant à 21h hier soir. Partout, la météo devrait revenir à la normale aujourd'hui. Mais prenez garde aux avalanches. En Savoie, vigilance orange. Météo France attend beaucoup de grandes, voire de très grandes avalanches dans les 24 heures qui viennent. Ils sont soupçonnés d'avoir violé une adolescente et d'avoir filmé et diffusé leur crime. Deux garçons de 16 ans ont été mis en examen hier soir et placés en détention provisoire. La vidéo tournée dans une cage d'escalier dans l'Essonne a fait le tour des réseaux vendredi, dénoncée par de nombreux internautes qui ont permis d'identifier les suspects. Twitter n'est pas à la hauteur, accuse la ministre Marlène Schiappa. À l'étranger, l'armée de Bachar el-Assad regagne du terrain en Syrie, dans la région d'Idlib. Vaste offensive contre les djihadistes depuis quelques jours et ses cortèges de civils contraints de fuir. 30 000 personnes ont quitté la zone depuis jeudi dernier. En Irak, la rue s'embrase de nouveau contre le régime au pouvoir et la mainmise de l'Iran. Nouvelles images de barrages et de manifestations hier.
Des images comme on en a vu fleurir aux quatre coins du monde cette année.
En Amérique latine, en Algérie, au Liban. C'est notre série de la semaine, la contestation en 2019. à commencer par ce mouvement qui dure depuis 9 mois maintenant, direction Hong Kong et ses manifestations contre l'emprise de Pékin, résumé par Joshua Wong, l'un des jeunes leaders de la révolution.
On demande des élections libres. Actuellement, le chef de Hong Kong n'est pas élu par les gens de Hong Kong. La chef de l'exécutif est juste une marionnette du régime communiste.
Carrie Lam, chef de l'exécutif ou la voix de Pékin, selon les contestataires, toute une génération continue à se battre aujourd'hui encore contre elle et contre le pouvoir de la Chine. Stéphane Pambrin est à Hong Kong pour France Inter.
Les fêtes de fin d'année tournent au pugilat à Hong Kong. Des milliers de manifestants envahissent des centres commerciaux pour protester contre le gouvernement local accusé d'être aux ordres de Pékin. Depuis 6 mois, les manifestations s'enchaînent et se radicalisent. 6000 personnes arrêtées par la police. C'est un projet de loi qui a mis le feu aux poudres. Un texte devant permettre d'extrader vers la Chine continentale des ressortissants hongkongais. Le signe d'une reprise en main du territoire semi-autonome par le régime communiste. Depuis, les manifestations s'enchaînent, rassemblant jusqu'à 2 millions de personnes au mois de juin. Toujours les mêmes slogans, justice et démocratie. Le gouvernement local finit par retirer ce projet de loi. Mais les violences doivent s'arrêter pour le bien de Hong Kong, demande alors Carrie Lam, la chef du gouvernement local. Sans succès, les manifestants restent mobilisés et demandent une enquête sur les violences policières et des élections au suffrage universel. Il y a tout juste un mois, les élections des conseillers municipaux à Hong Kong se transforment en référendum. Les partis démocrates raflent 90% des suffrages. Un camouflet pour Pékin qui refuse toujours de négocier avec les manifestants. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
8h11, la suite du journal Florence. Pas de messe de minuit cette année à Notre-Dame de Paris.
La cathédrale sera vide demain soir pour la première fois depuis les années qui ont suivi la révolution de 1792. Notre-Dame, où des travaux herculéens vont durer 5 ans théoriquement. Une phase importante va d'ailleurs commencer cette semaine après l'installation d'une immense grue qui va enfin permettre de démonter l'échafaudage métallique soudé par l'incendie du 15 avril dernier. Rémi Brancato.
Du haut de ses 80 mètres et avec son bras imposant de plus de 90 mètres, la grue surplombe désormais Notre-Dame. Et pour l'installer, il a fallu couler une dalle de béton sur 2 mètres de hauteur. Fastidieux mais indispensable, nous dit Rémi Fromont, l'un des architectes en chef des monuments historiques à Notre-Dame. Dès début janvier, cette grue permettra de démonter l'échafaudage.
C'est une tâche qui va être extrêmement délicate parce que l'échafaudage a été fondu, soudé, déformé. Et on va venir le découper aussi grâce à des cordistes, des ouvriers suspendus pour découper l'échafaudage. On va sortir les éléments par le haut. La grande difficulté, c'est qu'on a un retour d'expérience de 8 mois maintenant dessus, avec des vents à plus de 100 km/h qui sont passés par-dessus. Donc on sait qu'il est a priori stable, mais on ne sait pas pour combien de temps il sera stable. Il faut qu'on le démonte impérativement.
Des poutres en bois ont d'ailleurs été installées autour de l'échafaudage pour le consolider, pour éviter qu'il s'effondre au moment du démontage, qui doit durer 3 ou 4 mois. En attendant, pendant les fêtes, pour la plupart des compagnons, le chantier va ralentir, un repos bien mérité.
On a quasiment les mêmes équipes qui tournent depuis le début. Donc évidemment, à un moment, les hommes se fatiguent et nous, ce qu'on craint, évidemment, c'est l'accident. Mais là, je crois qu'on a vraiment tous besoin de prendre un petit peu de repos.
En fin de semaine, la grue, elle, devrait prendre du service pour déblayer les vestiges de la flèche, notamment coincée sur les voûtes et inaccessible jusqu'ici.
Et apparemment, une fois que l'échafaudage sera démonté, on y verra plus clair sur la masse des travaux à entreprendre et sur le coût de la reconstruction. Mon boulot ou mon congé paternité ? Dilemme des hommes, dont un tiers ne prennent pas les 11 jours auxquels ils ont droit à la naissance de leur bébé. C'est encore plus vrai dans le sport de haut niveau où Johannes Bö fait figure d'exception. Il vient de remporter 2 victoires en Coupe du Monde de biathlon ce week-end au Grand Bornand. Il est norvégien, il fera l'impasse sur la compétition en janvier pour rester à la maison avec sa femme et son bébé. Son choix fera date, Fanny Le Chevestrier.
Question encore taboue, comme l'a montré récemment ce très subtil « ce sont les hommes qui accouchent maintenant », prononcé par l'ancien entraîneur de football Giroud, raillant l'absence à un match du joueur du PSG Marquinhos, parti assister à la naissance de son enfant. En basket, il y a à peine 2 ans, l'entraîneur lituanien Šarūnas Jakicevičius avait lui dû monter au créneau pour défendre l'un de ses joueurs qui avait choisi la maternité plutôt que les demi-finales du championnat national.
Une demi-finale, pour qui c'est important? Pour l'équipe, quand vous aurez votre premier premier enfant, vous comprendrez ce qui est important dans la vie. Rien n'est plus important. Aucun titre, rien.
De là à prendre un congé paternité face aux enjeux économiques et sportifs toujours plus importants. Très rares sont les athlètes qui le font. Beaucoup dans leur contrat n'y sont même pas autorisés. Au biathlon, le choix de Johannes Bö est en tout cas salué par le Français Quentin Fillon-Maillet.
Moi, j'ai eu un peu ça à une autre situation avec ma copine qui a été malade d'un cancer et j'ai dû prendre la décision, est-ce que je continue la saison ou pas. Ma copine a dit, c'est mieux que tu continues parce que ça me fera du bien, que c'est complètement au-delà du sport et je comprends tout à fait cette décision.
Mais certains comme Martin Fourcade doutent que le Norvégien aille au bout de sa démarche. Martin Fourcade qui en 2017 avait longtemps hésité et courté sa saison pour rester auprès de sa femme avant finalement d'aller chercher un ultime succès en Norvège.
Voilà, Fourcade et Quentin Fillon-Maillet qui vont sans doute tenter de profiter de l'absence de Johannes Bö pour aller chercher le globe de cristal à la fin de la saison. Fillon-Maillet est troisième, Fourcade quatrième pour le moment. Enfin, pour les retardataires des cadeaux de Noël, voici une idée un peu chère mais très chic. Un polo made in France fabriqué par de jeunes agriculteurs du Gers. Ils se sont lancés dans la plantation de coton et l'aventure valait le coup, qui nous a raconté par Béatrice Duguay.
Les trois associés sont viticulteurs et céréaliers à la base, ancrés dans leur territoire et entreprenants, Dixit Johan de Witt.
On leur porte déjà à boire aux gens, on les nourrit déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait les habiller. Donc Samuel, Médéric et moi-même, Johan, on s'est dit pourquoi pas faire pousser du coton. Ça serait complètement inédit, il y a toute une industrie capable de transformer le coton en France, donc on devrait essayer.
L'histoire débute par une expérience de Johan de Witt, presque une facétie pour son complice Samuel Cardeillac.
Il a essayé dans le jardin de ses parents, à planter 6 graines de coton. Elles ont poussé, donc après, on a dit on va essayer dans le champ.
Du simple jardin, il passe à 2 hectares en 2017, un seul exploitable, puis à 14 cette année, 2 tonnes de fibres récoltées, de quoi fabriquer 5 à 6 000 polos. Première récolte à la main, aujourd'hui avec une petite machine achetée en Espagne. Pas besoin d'irriguer le champ jusque-là, malgré la canicule, ni de traiter, et c'est une bonne surprise.
On a des terres argilo-calcaires qui retiennent l'eau aussi, comme c'est le seul qui est en France. Il n'y a pas encore d'insecte ravageur qui s'attaque à lui, et des maladies non plus, donc on a rien besoin d'y faire.
Le coton est filé dans les Vosges avant d'être tissé du côté de Troyes, polo 100% français donc, qui ne fait pas des milliers de kilomètres pour arriver dans votre armoire.
Quand vous produisez en Chine ou au Brésil et qui repart en Chine pour revenir par la France et les États-Unis, nous on a fait appel à des prestataires français qui sont plus chers que dans ces pays-là, mais c'est un choix qu'on est fiers d'assumer.
Assumer aussi le prix du polo de 95 à 120 euros.
Voilà, et la marque s'appelle Jean-Phil, en deux mots ces polos, vous pouvez les trouver sur internet.
Merci Florence Paracuelos. Pas facile d'enchaîner. Voici tout de suite la météo, Marie-Pierre Planchon.